toutes et à tous et bienvenue dans Cop Racing, votre rendez-vous en direct chaque lundi soir pour suivre l'actualité du Racing Club de Strasbourg. Le Racing qui défie l'OM ce samedi soir à la Méno, match de gala après 3 semaines de trêve. Ça commençait à faire long quand même, on était un petit peu sur les dents. On va vous remettre dans l'ambiance et vous présenter les enjeux de ce match dans cette émission. On est ravis d'accueillir ce soir autour de la table José Garas. Salut José.
Bonsoir.
Co-entraîneur du club de Molsheim, toujours cette saison. Et face à toi, Charlie Guillen. Salut Charlie.
Salut Mathieu, salut José.
Top musique, toujours en forme?
Toujours en forme. Le matin, très tôt, mais en forme.
Et ben merci d'être là le soir, du coup, en direct avec nous. Au programme de cette émission, on va bien sûr parler de ce match de gala de samedi soir à la Méno. Le côté Racing, bien sûr, on parlera de cet adversaire aussi, l'Olympique de Marseille, pas au top de sa forme en championnat, en tout cas en Coupe d'Europe, ça va plutôt pas mal. Et puis on parlera après la pub du calendrier assez chargé qui attend le Racing d'ici la trêve, 6 matchs d'ici la trêve de Noël, tout ça en moins d'un mois, et des matchs importants évidemment contre des concurrents directs. Et puis on parlera évidemment de tous les chantiers qui animent l'équipe et les bureaux et les soirées de Patrick Vieira lors de cette trêve, et comme dit, lors des semaines à venir. Voilà pour le programme, installez-vous confortablement pour une petite demi-heure, on est parti. Racing Marseille, c'est donc ce samedi soir à la Méno. Le Racing qui, après le report de son match à Brest, n'aura pas joué depuis 3 semaines, depuis le nul contre Clermont à la Méno. C'était le 5 novembre dernier. Reprise en fanfare, donc contre l'OM, qui ce n'est jamais un match complètement comme les autres. Qu'est-ce que vous attendez déjà de ce match en tant que simple supporter amateur, déjà quand on va à la Méno voir un match? José, tu attends une victoire, grand match, un spectacle,
je sais pas si
à la
c'est ce que j'attends
fiche.
Moi qui est important, mais en tout cas je sais qu'il y a une grosse attente concernant cette équipe, parce que il y a des prestations qui sont pas complètement abouties, et notamment celle de Clermont, même si on sait que le match de Clermont a été un peu faussé aussi par cette expulsion. Mais on est en droit d'attendre, je pense, un peu plus au niveau notamment du jeu. Donc je crois que ce qui manque aujourd'hui à la Méno, c'est justement d'arriver à enflammer un peu et retrouver ce public aussi, hein, parce que quelque part on se dit que le public est pas content et qu'il accompagne pas l'équipe comme il faut, mais il faut aussi que l'équipe à un moment donné pousse ce public dans ses retranchements. Donc
c'est peut-être le match rêvé.
C'est peut-être le match pour le faire. Je pense que Marseille c'est le match rêvé pour le faire, effectivement.
Charlie, toi qui souffres depuis le début de saison, est-ce que tu es impatient quand même?
Même pas. Je vais être honnête, je suis même pas impatient de cette affiche qui pourtant est une des belles affiches de la saison à la Méno. C'est vrai que c'est toujours un événement de recevoir l'OM, surtout avec l'Alsace où on peut retrouver pas mal de supporters marseillais. Mais alors moi j'ai des souvenirs de Strasbourg-Marseille qui sont souvent raté par le Racing, hein. C'est vrai que c'est une équipe qui nous réussit peu. Dans les résultats et aussi dans le jeu, je sais pas si vous vous rappelez d'un Racing OM, le match où Jean-Luc Filzer, le speaker, était absent, un match très particulier, complètement raté du Racing. C'était il y a un an. Pour moi, c'est des matchs qui sont souvent plus durs à vivre qu'autre chose.
Tu attends beaucoup et qui sont difficiles.
Ouais.
Le Racing,
ouais.
C'est vrai qu'il n'a pas battu l'OM depuis le retour du Racing en Ligue 1 il y a 6 ans maintenant. 3 nuls. 2 défaites. Puis il y a une année où on n'a pas joué, Covid oblige. Petit coup d'œil au classement, parce que c'est pas inintéressant non plus, classement très particulier de cette Ligue 1, où les deux équipes, le Racing et Marseille, ont la particularité d'avoir toutes les deux un match en moins, puisque les Marseillais ont ce fameux match contre Lyon à jouer, qui n'a jamais eu lieu. Puis le Racing, pareil, leur match à Brest n'avait pas commencé. Le Racing qui du coup a perdu 3 places lors de la dernière journée de championnat, un match en moins certes, 1 point d'avance sur Lorient, le barragiste, mais dans l'absolu, 3 points de plus et vous êtes 7e. José, alors toi, on en parlait avant cette émission, qu'il y a 4 matchs en retard avec ton équipe de Molsheim. Dans l'absolu, ça n'a pas d'importance. Il y a des matchs, c'est des points qui restent à prendre, c'est des matchs qui restent à jouer. On ne peut pas dire que ça n'a pas d'importance, parce que forcément, on voit les autres qui avancent et
ouais,
ça, scotcher derrière.
Il y a une importance capitale. Maintenant, il y a plusieurs équipes à 11 matchs, je crois. Hein, donc,
6.
Dont Marseille, qui est aussi à 11 matchs. Maintenant, on sait aussi qu'entre la 6e place et la 16e place, il y a 5 points d'écart. Donc je crois qu'il y a eu un papier très bien fait ce matin dans l'IDN qui expliquait justement ce ventre mou qui va de la 6e à la 16e place, c'est quand même assez particulier, hein, pour le souligner. Maintenant, on peut très vite basculer dans la bonne partie. Il faut quand même savoir qu'on est qu'à un point de Marseille, hein. Aujourd'hui, on parle de match de gala. C'est un match de gala parce que c'est l'OM. Ceci dit, il y a quand même pas mal de similitudes sur ces deux équipes-là, et notamment, quand on prend les statistiques, les quatre défaites, enfin, il y a eu 5 défaites et 4 défaites, mais il y a 4 défaites contre des adversaires identiques, hein. C'est PSG, Monaco, Nice et Lens. Ouais. Donc, c'est pas n'importe quelles équipes non plus de ce championnat. Donc, il y a aussi ce côté-là. Je pense que toutes les équipes n'ont pas rencontré encore ces cadors. Le Racing l'a fait, Marseille aussi. Moi, je reste persuadé qu'avec les statistiques de Marseille, qui ont pris 2 points sur 15, je crois, à l'extérieur ces derniers temps, on n'est pas plus mal loti. Et je pense que Strasbourg, c'est peut-être l'occasion de pouvoir créer cette sensation aujourd'hui que tout le monde attend.
On arrive à faire abstraction qu'on soit dans le monde amateur ou en pro, on arrive à faire abstraction du classement malgré les matchs en retard et les points devant qui.
Ouais, mais je pense que ça doit être motivation. Si avec 3 points, on arrive à se projeter et à gagner quelques places, on l'a bien vu, hein, le Racing n'a pas joué contre Brest, on a perdu 3 places d'un coup, ça peut aller dans l'autre sens, on joue à domicile, quel que soit l'adversaire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir de l'ambition. Et cette équipe, je pense qu'elle va progresser. On a souffert jusqu'à présent, les amateurs de foot, parce qu'on a envie de voir du beau jeu. Mais je reste persuadé que moi, je crois au projet.
Voilà, on en parlera tout à l'heure.
J'aimerais croire au projet de jeu. Je crois au projet du club, mais j'aimerais croire au projet de jeu.
Pour commencer, petit coup d'œil, tiens, on a meublé cette trêve internationale. Alors certains, évidemment, sont restés à Strasbourg s'entraîner. Petit coup d'œil à ce qu'ont fait les internationaux côté Racing. Plusieurs joueurs étaient en sélection. C'est une des raisons pour lesquelles le Racing n'a pas joué de match amical ce week-end. Matzels était titulaire contre la Serbie. Victoire 1-0 et remplaçant contre l'Azerbaïdjan ce week-end. Lebo Motiba était forfait pour le match contre le Bénin. Il faudra suivre d'ailleurs l'évolution de son absence. Aïdouso, qui n'a pas joué une minute avec le Racing cette saison, était titulaire avec la Guinée contre l'Ouganda. Ismaël Doucouré, vous l'avez peut-être vu, titulaire avec les Espoirs, défaite contre l'Autriche. Emmanuel Emega notamment était remplaçant contre Gibraltar avec les Espoirs des Pays-Bas. Voilà pour le bulletin de santé. La bonne nouvelle, Charlie, tu nous disais ça juste avant de commencer cette émission, c'est le retour de Dylan Bakua à l'entraînement. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ouais, ce lundi, il a repris l'entraînement, Dylan Bakua. C'est vrai qu'on l'attendait un petit peu plus tard. Il y avait 6 semaines, hein, d'absence prévue pour l'ailier strasbourgeois, mais finalement, il est bien de retour à l'entraînement. Donc, d'après nos amis de l'équipe, il serait disponible samedi pour le match, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle étant donné les forces en présence, quoi.
Qu'est-ce que tu as envie de voir ? Qui tu as envie de voir sur le terrain samedi ?
Et moins pire. c'est compliqué parce que ça va être un match, c'est toujours particulier. Je pense que sur ces rencontres-là, pas besoin de motivation supplémentaire pour les joueurs qui seront de toute façon motivés par l'affiche d'emblée. C'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on a vu sur certaines rencontres cette saison. Après, qui j'ai envie de voir, ce que j'ai envie de voir, surtout, c'est de l'envie. C'est vraiment une équipe qui a envie. Alors, on va pas demander au Racing de Patrick Vieira d'être parfait tactiquement et de maîtriser son match, ce qui n'arrivera pas. Mais par contre, si on peut au moins avoir des joueurs qui ont de l'envie de faire plaisir aussi au public qui en a besoin, qui est un petit peu comme moi, détaché de ce Racing saison 2023-2024. Donc si au moins on pouvait passer un bon moment samedi soir à la Méno, déjà qu'il va faire froid. Donc si en plus ça pouvait être sympa sur le terrain.
Qui nous réchauffe, voilà. Le diable. On va parler de cette équipe de l'Olympique de Marseille qui débarque donc à la Méno ce samedi. Le Racing, tu en parlais, où Marvin Senaïa sera suspendu après son expulsion contre Clermont. Gigot sera suspendu côté Marseille. Valentin Rongier, son absence est également déjà actée. C'est toujours une équipe qui... José, un petit peu comme Lens, comme Lyon, comme Rennes, qui fait partie un peu des équipes qui sont un peu en galère dans ce début de championnat. Ils ne sont qu'un point devant le Racing pour l'instant.
Oui, en effet, moi, après le Racing Club de Strasbourg, c'est l'équipe que je supporte depuis toujours, depuis les années 90.
Et on t'a invité quand même.
non, mais c'est d'abord le Racing Club de Strasbourg. Et donc, j'ai vu pas mal de matchs cette année, effectivement, de Marseille. Alors, on parlait d'envie. Eux, ils font pas défaut sur ce sujet-là, mais je crois que c'est au niveau de la qualité quand même, hein. C'est une équipe qui a énormément de mal, notamment à l'extérieur, alors que l'année dernière c'était un peu inversé. Ils avaient du mal à domicile et un peu plus de mal à l'extérieur. Donc nous aujourd'hui, on n'a pas fait le plein de points à domicile. Donc on sait aussi que c'est un domaine dans lequel on doit mieux faire, même si on a pris pas mal de points à domicile.
Surtout lors des derniers matchs, en fait.
Voilà. Hein, donc je pense que si ça pouvait s'inverser pour le Racing, mais pas pour, pour Marseille, ça serait une bonne chose. Maintenant, sur les joueurs qu'on a envie de voir, je crois qu'il faut laisser travailler Patrick Vieira, hein, comme il le fait depuis le début de saison. J'ai l'impression qu'ils ont trouvé un système de jeu sur lequel il veut perdurer, hein, qui est plutôt un 4-4-1-1 ou un 4-2-3-1. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on aurait peut-être envie de voir un peu plus. Il a testé deux attaquants, il a voulu les voir deux matchs de suite.
Donc, la deuxième partie, effectivement, voilà. de cette émission,
peut-être un focus. On pourra en reparler parce qu'effectivement, s'il y a un changement peut-être attendu, c'est peut-être à ce niveau-là.
Dans la offensive, ouais. On en parlera tranquillement après la pub. Charlie, cette équipe de l'OM, vous avez peut-être vu la statistique s'afficher. 18e plus mauvaise équipe du championnat à l'extérieur. Aucune victoire à l'extérieur. 2 nuls, 4 défaites, ils sont tout à fait prenables en fait.
C'est une équipe malade, hein. De toute façon, c'est cet OM aussi qui peine à convaincre. Ils sont sans victoire en championnat depuis début septembre, donc ça reste quand même une équipe. Une seule victoire, pardon, depuis début septembre, c'était face au Havre pour l'OM. Donc ça reste une équipe effectivement malade, un point de plus devant le Racing. Les supporters marseillais, pour suivre un petit peu ce qui se dit sur les réseaux, sont aussi désabusés que les supporters strasbourgeois. Donc
j'ai plutôt patient quand même pour l'instant. Eux aussi.
Patient parce qu'il y a l'effet Gattuso qui est arrivé et qui a apporté une espèce de grinta qui peut, voilà, même si les résultats ne sont pas forcément là en championnat, il y a aussi le bénéfice de la Coupe d'Europe qui leur permet aussi d'avoir cette éclaircie dans la saison, pour l'instant moyenne, moins en championnat. Donc c'est vrai que ces victoires face à Athènes notamment et cette première place de groupe en Europa League, ça permet aux supporters marseillais d'avoir cette patience. Mais c'est vrai que dans le jeu aussi, ils en attendent beaucoup parce que l'effectif est là. Pour moi, l'effectif marseillais est qualitatif et devrait jouer le top 5 sans problème. Quoi.
On verra ça. Non, parce que c'est la pub. On en parlera dans un instant. Marseille, effectivement, leader de son groupe, comme tu le disais, de victoire, de nul. Pour l'instant, devant Brighton, l'AEK et l'Ajax. On parle de la suite de calendrier, notamment du Racing. 6 matchs encore avant Noël. On en parle juste après cette petite pause. Cup Racing de retour après une courte mi-temps. On est encore ensemble pour un bon quart d'heure. On va parler de ce match contre Marseille samedi soir du côté de la Méno. Mais on va élargir un petit peu le spectre aussi parce que le Racing, qui n'a donc joué que 11 matchs depuis le début août, va en jouer 6 d'ici Noël. Tout ça en moins d'un mois. Regardez le programme qui attend les Strasbourgeois d'ici la trêve de Noël qui sera le 20 décembre. Réception donc de Marseille. Il y aura un déplacement compliqué à Reims, une équipe de haut de tableau le vendredi 1er. Le match en retard à Brest un jeudi soir. Et la venue du Havre à la Méno directement le dimanche suivant avant d'aller à Lorient et puis de finir par la réception de Lille. Tout ça, José, en moins de 6 semaines, c'est quasiment inédit dans le calendrier, enfin c'est inédit dans le calendrier du Racing depuis le début de cette saison où il y avait toujours au moins une semaine entre deux matchs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut le prendre un peu comme un bloc malgré tout, notamment cette séquence de 3 matchs en 8 jours. Ça va obliger Patrick Vieira peut-être à jongler avec son effectif différemment que ce qu'il a fait.
Moi je crois que c'est une bonne chose, hein. Je pense qu'on a besoin d'enchaîner les matchs et surtout on aurait besoin d'enchaîner des bons résultats. J'ai aussi l'impression que sur les 6 matchs qui restent, c'est quand même des équipes qui sont entre guillemets un peu plus abordables peut-être que les adversaires que le Racing a joué pour l'instant. Donc je pense que c'est les 3 matchs en une semaine, ça peut être une bonne chose. Il y a un effectif qui est là, il manque pas trop de monde, il y a un effectif élargi. Peut-être que c'est le moment de pouvoir sortir quelques garçons qu'on n'a pas l'habitude de voir et de leur donner leur chance, hein.
Charlie, justement, il va devoir probablement faire tourner. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de garçons aussi qui sont dans l'effectif, mais qui ne jouent pas ou qui ne jouent plus ces derniers temps.
Oui, ben c'est ça. Si imaginons, on est amené à avoir un Persic qui n'a pas joué de la saison, ou un Jean-Eudes Aoulou, enfin, c'est ces joueurs-là qui n'ont pas de temps de jeu. Est-ce que vraiment ils vont réussir à entrer dans le bain directement sur un espèce de turnover là, sur les 6 prochains matchs? Moi, j'avoue que ça me pose des questions. Donc c'est vrai que ça va être. Comme le dit José, c'est un enchaînement de matchs qui est bienvenu pour le Racing, qui va peut-être permettre à Patrick Vieira de trouver son équipe et d'avoir un système de jeu qui fonctionne. J'en ai encore des doutes, mais c'est vrai que cet enchaînement de matchs avant la trêve, ou alors sera décisif pour la suite de la saison et on gagne aucun de ces 6 matchs où on prend 2-3 points, et là on sera vraiment dans la charrette et on se dira bon, qu'est-ce qu'on fait cet hiver, est-ce qu'on décide en tout cas à l'étage du dessus de changer quelque chose, ou est-ce que au final voilà, on aura réussi à trouver une équipe à peu près cohérente. De toute façon, ça va être décisif pour moi. La saison se décide maintenant.
Ça pourrait rebattre les cartes. Ça me fait penser comme à la réaction de Frédéric Guilbert après le match de Clermont. Il remplace Senaya. Il démarre à la place de Stenner, il change de côté. Il joue à gauche parce que
Il joue à gauche.
Est absent. Et qu'il dit à la fin du match, je suis cramé, ça fait plus de deux mois que j'avais pas fait un match et tout. José, on a ce problème-là aussi, même sans aller jusqu'à Oulu qui lui est carrément en tribune, mais des Persic, des Sissoko, des joueurs qui n'ont quasiment pas joué depuis le début de saison. C'est dur de les remettre dans le circuit quand on a aussi peu de temps de jeu depuis des mois.
Bah surtout qu'on a, ça fait trois semaines qu'ils n'ont pas joué, donc il y a eu une opposition interne. Il n'y a pas eu de match amicaux. Je pense que ça aurait été bien de donner du temps de jeu à ces joueurs-là, justement, parce que ça passe par le jeu, hein, le rythme. Alors, même si à ce niveau-là, en termes de préparation, on peut penser que les garçons sont prêts à jouer, mais je pense qu'ils sont prêts à jouer des bouts de match, mais pas à enchaîner des matchs, c'est clair. Maintenant, sur les joueurs qui sont un peu écartés depuis le début de saison, moi, Persic, j'aimerais le voir, mais tant qu'on jouera dans ce système-là, on le verra pas, c'est sûr et certain. Maintenant, Persic, il rentre dans un système de jeu bien précis. Et effectivement, il serait avec Aoulou, ce serait des garçons qui pourraient peut-être apporter aussi un peu d'expérience à cette équipe-là. Maintenant, il faut faire confiance à ces jeunes qui sont là et qui sont là pour éclore. Hein. Moi, je reprends un peu quand on a recruté Doucouré et Bellegarde. Souvenez-vous, ils n'ont pas joué tout de suite. Hein. Ils ont mis combien de temps à sortir du bois et à percer. Il leur a fallu 2 ans quasiment.
Oui, mais ils ont aussi profité d'un coach différent.
D'un coach et de joueurs d'expérience qu'ils encadraient. Et de joueurs d'expérience qu'ils encadraient. Ce que je voudrais dire par là, c'est que...
Le reproche qu'on fait à ce projet aujourd'hui, José, c'est justement de manquer de joueurs cadres autour de ces joueurs, sur le terrain en tout cas.
Là, je vous rejoins. Maintenant, sur le fait de recruter des joueurs, des bons joueurs de moins de 23 ans, de faire du trading, de se dire qu'on veut les acheter maintenant pour les former... pour pouvoir les revendre, pas tout de suite, mais dans 3 ans, dans 4 ans ou dans 5 ans, je pense que la formule est bonne. C'est l'équilibre aujourd'hui qui me semble pas bon. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, quand vous construisez une équipe et que vous voulez prendre quelques jeunes joueurs, quelques bons jeunes joueurs, vous commencez par mettre une colonne vertébrale en place. Et cette colonne vertébrale, pour moi, elle n'existe pas. Elle existe à partir de Cels jusqu'à Niamsi, Perrin. Et après, c'est plus compliqué. Voilà.
Ils ne sont pas censés beaucoup jouer dans le projet. Enfin, on attend ainsi là, on attend des joueurs comme ça, notamment à cette place. Il y a une dimension psychologique aussi, Charlie, quand on a un joueur comme Persic, même si effectivement son rôle est compliqué, même si Soko... Quand on a aussi peu la confiance du coach, manifestement, depuis le mois d'août, se sentir encore complètement impliqué, responsabilisé. Alors, vous allez dire, c'est le rôle d'un professionnel, mais en même temps, c'est pas forcément évident tous les jours non plus.
En plus, Persic a eu quelques petits soucis physiques. C'est vrai qu'il est pas au meilleur de sa forme physiquement. Après, comme le dit José, je suis pas certain qu'on le voit forcément titulaire sur un des matchs là d'ici la fin décembre. Mais ça fait partie de ces joueurs qui peuvent avoir éventuellement une carte à jouer en cas de changement de système. Et bon, voilà, c'est ce qu'on se dit encore, c'est que est-ce qu'on va rebattre encore les cartes au niveau du système pour déstabiliser encore cet effectif qui manque déjà de stabilité. Je vois pas Persic, enfin, ou d'autres joueurs même, même comme disait José, Jean-Eude ou Ibrahima au milieu.
Ça me semble compliqué.
Ça semble compliqué de les voir sur les prochaines rencontres.
On va donc faire avec les jeunes qui sont là actuellement pour terminer et continuer plutôt. On a glissé déjà sur la dernière partie, mais c'est très bien. C'était dans une fluidité totale sur les chantiers de Patrick Vieira d'ici la fin de cette année, en tout cas 2023. José, le grand chantier, c'est devant, même si on ne touche pas au système. Il y a toujours la question des hommes. Quel est ton regard sur alors les supporters qui pensent au match de Marseille ce soir? C'est Gabiro Motiba qui a ramené l'égalisation à la
maison. Ouais, mais je pense que on a tous la même envie. Hein. Je crois qu'on a tous envie de voir. En fait, le système, c'est une pointe haute et de fixation capable de prendre en profondeur avec un garçon qui peut tourner autour de lui, qui est capable de décrocher ou d'éventuellement venir en deuxième attaquant. Donc aujourd'hui, avec Emenga et Saï, on a ces deux joueurs-là. Je pense que Motiba et Gamero méritent un peu plus que de jouer 20 minutes ou 30 minutes. Mais Vieira le sait, je pense que coach Vieira le sait. Il a voulu enchaîner deux matchs de suite avec cette paire d'attaquants. Et ça peut se comprendre. Ceci dit, je crois qu'on peut être en attente de voir éventuellement des changements à ce niveau-là. Maintenant, j'ai vu que Motiba n'avait pas joué avec la sélection. J'espère qu'il n'y a pas une mauvaise surprise. surprise.
Mais un duo Saï et Mega, moi ça me fait peur. Hein. C'est
pas entre Mega deux matchs.
Ah non, Mega un seul but cette saison qui peine aussi à trouver du rythme. Saï qui pour moi est un joueur de Ligue 2, ni plus. Motiba, bah, justement qui est juste là en super sub, hein, c'est pas en titulaire. Motiba ça a jamais été vraiment très concluant. Et puis Kevin Gamero qui malheureusement peut pas jouer plus de 30 minutes par match. Donc le faire démarrer, finalement, c'est en attaque pour moi qu'on a aussi un problème de solution et de joueurs. Alors peut-être qu'un jour Emega prouvera qu'il vaut les millions qu'on a mis sur la table pour lui. J'attends de voir. Ça, pour moi, c'est un joueur prometteur. J'y crois encore. Je crois.
On est très serein en tout cas après le match de Clermont, malgré le 0-0, malgré son match somme toute assez moyen, vous l'avez quand même relativement peu vu, il était en tout cas, enfin il affichait après le match une forme de sérénité malgré tout.
Je pense que c'est un garçon avec une bonne mentalité qui a certainement du talent et qui prouvera qu'il en a, donc j'espère vraiment, moi ça fait partie de ces joueurs auxquels je crois dans le projet Racing j'aimerais vraiment qu'il marque ce week-end pour enfin commencer sa saison.
Pardon, petite pause parce que vous savez on ne parle pas que de foot dans Cup Racing. On donne aussi un petit coup d'œil dans le rétroviseur du sport alsacien de ce week-end. On va du côté du Rennes voir la SIG notamment. Regardez.
À la victoire contre Saint-Quentin mardi dernier n'aura visiblement pas lancé la SIG. Sur le parquet de Chalon-sur-Saône, défait lors de ses trois derniers matchs, les Strasbourgeois coulent pendant la première mi-temps et encaissent 59 points. Mais comme souvent, les hommes de Massimiliano Cancellieri ne lâchent pas. Les résultats sont absents, pas le mental. Grâce notamment aux 18 points de Shondy Brown, Strasbourg revient à 4 points dans le troisième quart-temps. Un écart minime jamais comblé. Chalon profite de la débauche d'énergie alsacienne pour reprendre le large dans la quatrième reprise. Défaite 101-91 face à un adversaire direct pour le maintien. La SIG est 15e au classement. Entre les deux premiers de Liga, Levallois, Paris et Mulhouse, le match ne pouvait être que serré. À domicile, les Alsaciennes démarrent fort. Le premier set est accroché, mais à 22 partout, le VMA prend les devants et empoche la première manche. La deuxième reprise est parfaitement gérée par les filles de François Salvani à 2-0. On imagine mal alors Mulhouse ne pas enchaîner une sixième victoire consécutive en championnat. Et pourtant, Levallois, Paris prend les commandes dès le début du troisième set et déroule un scénario identique dans le quatrième. À direction le tie-break où les Mulhousiennes ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes et s'inclinent finalement 15-3 dans la manche décisive. Première défaite cette saison en championnat pour le VMA. Et puis la Marseillaise.
Oui. Ouais, ça c'est le sujet de la semaine dernière, mais c'est pas grave, la SIG qui a battu donc le Portel Aurélius, c'est dommage, on vous mettra les images au chaud pour la prochaine. Du coup, il nous reste un tout petit peu plus de temps, une grosse minute. Charlie, ton vœu pour ce samedi soir, je rembobine après une demi-heure d'émission. J'ai envie de
voir déjà un bon match. J'ai envie de voir aussi une belle ambiance parce que c'est vrai que ces derniers matchs c'était un petit peu compliqué aussi du côté de l'ambiance de la Méno parce que cette équipe justement a réussi à retourner un peu son public. Donc dans le mauvais sens contre ses joueurs, contre l'entraîneur aussi, ça peut vite devenir effectivement compliqué. On a connu ça à certaines époques au Racing. Moi j'ai peur de ça. J'ai vraiment peur de ça. Donc c'est pour ça j'espère qu'un bon résultat contre l'OM. Et pour moi un bon résultat c'est une victoire. Je veux pas de match nul. C'est une victoire.
Je veux gagner.
Contre l'OM qui est malade, donc il faut en profiter de cette équipe malade. Voilà.
José, tu sens quand même, malgré toute la confiance que tu as dans ce projet, ce public qui est réticent pour l'instant. En 30 secondes, pardon.
J'ai confiance au projet parce que je pense qu'il faut faire confiance à Marc Keller qui est le garant de l'institution. Moi, les 6 matchs qui restent avant la trêve vont valider ou pas le projet de cette saison. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que soit on a
un déclic,
on montre une vraie progression et on prend des points d'ici la trêve, soit je pense que la direction prendra des décisions à la trêve pour éventuellement recruter des joueurs pour renforcer cet effectif. Mais la validation de ce qui a été prévu ce début de saison va se faire, je pense, sur les 6 matchs qui restent. Et ils prendront une décision à ce moment-là.
Eh bien, une partie de la réponse, un sixième de la réponse, puisqu'il reste 6 matchs avant la trêve ce samedi soir à la Méno. Coup d'envoi 21h. Et ne cherchez plus de place, je pense qu'il n'y en a plus depuis très longtemps. José, merci beaucoup d'avoir été avec nous
plaisir.
Lundi soir. Charlie, grand merci.
Merci
d'avoir été
des nôtres.
Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.